Lille Info, comme chaque mercredi à 17h30, vous retrouvez ce magazine, Lille Info, le magazine de l'Université de Lille 1. La saison précédente, eh bien, nous avions appelé ce magazine USTL Info et Nabil El Aghar, vice-président chargé de la communication, de la culture et du patrimoine, est notre invité et peut-être va nous dire pourquoi ce glissement, ce changement d'appellation. Bonjour Nabil.
Bonjour René. D'abord bonjour à tous tes auditeurs et particulièrement à ceux qui ont suivi, comme tu viens de dire, le USTL Info. Qui a été non seulement une bonne initiative, mais une bonne réussite, semble-t-il.
Pour nous, oui. Pour vous, à vous de le dire.
En tout cas, ce que j'ai constaté est que les collègues ont été ravis de venir ici et faire cette émission sur deux domaines très, très différents. Parce que pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir cette magazine, c'est que USTL Info, l'année dernière, nous avons souhaité, d'une part, faire connaître l'université aux étudiants et aux universitaires eux-mêmes, mais aussi au personnel de l'université. Et faire connaître l'université, on a souvent eu tendance à se satisfaire de faire connaître au sens le plus superficiel du terme. L'étudiant connaît l'université au sens savoir où s'inscrire, où est le restaurant universitaire. Et puis, c'est vraiment, on est un peu minimaliste dans notre connaissance de lieu dans lequel on vit en réalité, hein, pour les étudiants, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Pour les enseignants, ça, pour certains, c'est presque la plus grande partie de leur vie se passe dans ce lieu. Les personnels qui travaillent ici, et pareil. Et on s'était rendu compte qu'on ne se connaît pas entre nous déjà suffisamment, on ne connaît pas les lieux suffisamment, on se sent pas forcément, en tout cas pas tous, un sentiment, on ne développe pas un sentiment par rapport à ce lieu et par rapport à cette communauté universitaire. Et d'ailleurs, on peut même se demander si la communauté universitaire est bel et bien vivante en tant que telle, en tant que communauté. Étant donné, d'une part, le lieu est assez grand, d'autre part, tout le monde est occupé à faire son travail. On n'a presque pas le temps de faire autre chose que sa recherche ou son cours et l'étudiant d'aller à son cours, etc. Donc il était important, il nous a semblé, en tout cas il nous semble encore aujourd'hui, très important qu'on puisse se donner les moyens de se rencontrer, de se connaître et de connaître ce qui est l'université et qu'est-ce que ça veut dire. Appartenir à une université et quelles sont nos obligations professionnelles, certes, mais pas seulement, mais c'est aussi quelle culture portons-nous, quel rapport avec la cité qui nous entoure, quel rapport avec nos étudiants, quel rapport entre le personnel dit personnel technique, ingénieur et administratif d'un côté et le personnel enseignant-chercheur de l'autre, quel point commun partageons-nous. Quelle éthique partageons-nous, devons-nous défendre vis-à-vis de nos étudiants, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes en tant qu'enseignants, chercheurs, etc. Toutes ces questions-là ne peuvent être traitées, peuvent toujours être traitées individuellement, bien entendu. Chacun de nous peut avoir sa vision du monde, comme on dit. Mais nous n'avons pas eu le moyen jusqu'à là de, ou en tout cas, ce n'était pas une tradition, je dirais, française, de l'université française, d'avoir des visions collectives suite à des débats permanents, des rencontres, des échanges entre les uns et les autres, afin de partager un projet aussi, parce que c'est comme ça aussi qu'on construit des projets communs, qui serait le projet de Lille 1. Alors je dis Lille 1, et donc pour répondre plus précisément à ton interrogation, pourquoi on disait Yustel Info l'année dernière et cette année on dit Lille 1, en réalité, et beaucoup de ceux qui connaissent Lille 1 savent que à un certain moment de son histoire, Lille 1 a changé de nom, qui s'appelait pour s'appeler Université des sciences et technologies de Lille. Et en même temps, Lille 1, enfin l'Université des sciences et technologies de Lille, est aussi l'Université de Lille 1, qui veut dire que dans le temps, les universités, Lille 1, Lille 2, Lille 3, sciences et technologies de Lille, l'Université Lille 2, ça veut dire droit et santé, et l'Université Lille 3, sciences humaines et lettres, était une seule université à Lille. Et dans un mouvement national, je dirais, que l'on regrette beaucoup aujourd'hui, les universités ont été donc séparées pour être passées de une à, en général, à trois universités. C'est le cas à Lyon, c'est le cas dans beaucoup de villes, à Strasbourg, à Grenoble, enfin dans beaucoup de villes universitaires françaises. Le temps est passé et aujourd'hui on se rend compte à l'évidence que cette situation n'est pas bonne de point de vue de la présence d'universitaires français dans le paysage universitaire mondial. Il y a un problème d'identification. Un Américain ou un Finlandais, vous lui dites Lille 1, Lille 2, Lille 3, il ne comprend rien. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça, c'est d'une part. Donc, il y a la question de l'identité et de l'identification, et c'est très important. Mais il y a encore plus important, c'est que, justement, la séparation qui a eu lieu il y a plus de 30 ans, 35 ans, n'a pas été bénéfique du point de vue de rapport entre, justement, de mon point de vue, à moi en tout cas, de rapport dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le projet commun, la capacité à sortir de sa discipline pour aller vers les autres disciplines, une espèce de mélange et d'échange. Encore qu'il ne suffit pas de remettre les trois universités ensemble pour que cela se passe aussi simplement que ça. Ça serait trop simple. Mais surtout, cette séparation a fait des universités à dimension faible par rapport aux grandes universités européennes et encore, d'une manière générale, anglo-saxonne. Et donc, la masse critique de ce qui est une grande université aujourd'hui, ce n'est pas de la dimension d'une université telle que Lille 1 ou Lille 2 ou Lille 3, mais c'est tel que Lille 1 plus Lille 2 plus Lille 3, c'est-à-dire ce qui était naturellement l'université de Lille par le passé. Donc, aujourd'hui, nous travaillons, ici mais ailleurs en France, on travaille à refusionner les universités et donner une visibilité et une dimension aux trois universités pour redevenir l'université de Lille. Ça, c'est c'est en perspective. C'est vraiment le projet d'avenir.
Est-ce qu'il y a déjà des services communs ou des passerelles entre les trois universités?
Oui, il y a plein de choses qui se font en partenariat entre les trois universités. Il y a le PRESS, cet objet qu'on a mis en place pour surtout autour de projets en commun, et particulièrement par rapport à la recherche. Il y a des projets en commun entre les trois universités. Mais pour ne pas éviter à répondre encore plus, je suis bavard, donc évidemment je mets du temps avant de répondre à ta question, le passage de Ustel Info à Lille 1 Info, c'est plus une question, alors, je dirais, interne à Lille 1, à notre université. On s'était rendu compte que, d'une part, notre communication était à refaire, était à retravailler, à être développée. Et le fait d'avoir deux noms, parce que l'île 1, le nom l'île 1 a toujours resté, donc on s'appelait en réalité Université de Sciences et Technologies de Lille, l'île 1, UESTL, l'île 1. Que ça soit en visibilité par écrit ou que ça soit par, à travers nos communications diverses et variées, ceci n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il fallait choisir soit UESTL, soit l'île 1. On ne peut pas, comme ça, tout le temps se balader avec deux noms qui, face à face. Puis on s'était rendu compte que UESTL, certes, nous, on s'y habitue, mais là, pareil, à l'étranger, vous dites UESTL, ça ne veut rien dire. Alors que vous dites l'université Lille, de Lille à Lille. Bon, ça a un sens, et c'est d'ailleurs, toutes les grandes universités se rapportent à la grande ville dans laquelle ils se trouvent. Et nous sommes l'université de Lille 1, donc par ailleurs. Et comme nous sommes en perspective vers une éventuelle fusion dans 2, 3, 4, 5 ans entre les trois universités lilloises, donc, et comme nous sommes en train de retravailler notre communication d'une manière générale et afin de mieux encore d'améliorer le rendu de nos actions, de nos projets d'une manière générale au niveau de la cité, au niveau de médias et de la presse, nous avons décidé de vraiment mettre l'accent sur l'appellation Université Lille 1. C'est pour ça que je t'ai proposé que l'émission que nous avions appelée IUSTL Info devient Lille 1 Info.
Voilà, qui est précisé. Donc, quand on dit Lille 1, effectivement, on ne sait pas le 1, à quelle matière le 1 se rapporte. C'est large le champ de l'université de Lille 1. Et il faut après redonner du corps, du contenu, ce qu'est un nombre simple. Donc comment, dans l'esprit de la communication, notamment vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'international, on arrive à faire d'un nombre, d'un chiffre, d'un numéro, une entité avec un contenu, avec une relation particulière à des individus, à des groupes, à des chercheurs?
Je dirais que c'est en comparaison à nos deux autres sœurs, de l'Université Lille 2 et l'Université Lille 3, je dirais que nous sommes le mieux lotis de ce point de vue.
Vous avez tiré le bon numéro.
Parce que on dirait l'Université Lille 1. En général, à l'étranger, les gens ne voient pas le 1. C'est-à-dire qu'ils entendent le chiffre 1, mais ils ne lui portent pas tant d'importance. Mm-hmm. Tant d'importance, ça arrive effectivement qu'on demande 1, ça veut dire quoi? Bon, et là, effectivement, on est parti pendant une demi-heure pour expliquer. Mais souvent, l'universitaire anglo-saxon n'entend pas le 1. Je veux dire, ça lui paraît tellement bizarre qu'il doit se dire, tiens, c'est une erreur, quoi. Mais il entend Université de Lille, ça, il entend très bien. Et là, il se situe et il identifie parfaitement l'institution. Sinon, 1, c'était l'habitude dans cette division qui a eu lieu dans le temps que les universités scientifiques portent le chiffre 1. Bon. Voilà, donc ça c'est le côté historique.
Les scientifiques et les mathématiciens ont quand même créé le nombre, ils ont droit de une priorité à cet égard.
Mais tout ça, ça n'a plus tellement d'importance. Nous sommes dans l'obligation de nous distinguer de nos deux autres universités, parce que c'est ainsi. Mais sans doute, dans quelques années, on parlera de même voie, et ça sera l'Université de Lille.
Voilà, donc on a bien compris, le projet des universités en France est lié aussi, en termes de développement, à une concentration d'efforts, à une cohérence, une cohésion. L'idée d'appartenir ou de faire partie d'un groupe avec un esprit, peut-être, Lille 1, c'est évidemment aussi une clé de la réussite, peut-être, pour arriver à trouver une identité, à rendre les choses plus humaines.
Oui, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu que c'est une clé, et c'est une clé importante. tiens un exemple, les anciens de l'île 1. Les anciens de l'île 1, souvent dans l'université française d'ailleurs, de manière générale, les anciens, ça veut dire les retraités. Mm-hmm. Et effectivement, on voit à quel point les retraités de l'île 1 continuent à travailler ici.
Ils ont créé une association.
Ils ont une association. Mmh.
Avec
sûr,
le patrimoine qu'ils mettent en valeur.
Le patrimoine scientifique qu'ils mettent en valeur. Ils désirent continuer à avoir un rapport avec leur ancienne université. Mais les anciens de l'île 1, aujourd'hui, ne veut absolument pas dire dans notre esprit les anciens étudiants en activité et qui se trouvent un peu partout en France, voire ailleurs dans le monde. Nous n'avons aucune... on a quelques adresses qu'on a gardées ici et là, mais nous n'avons pas gardé d'une manière systématique, approprié, étudié comme ça se fait dans les écoles, les anciens des écoles qui se forment aussi eux en association et une association qui est en rapport quotidien avec l'institution mère, avec l'institution dont ils sont issus. Et donc ici ça serait avec l'Université de Lille, et là ça serait des milliers de personnes qui aimeraient sans doute, en tout cas en partie, aimeraient revenir dans leur université, offrir de services à leur université, aider des étudiants à trouver du travail.
Alors justement, cet esprit réseau des écoles, c'est vrai que parfois il est critiqué, on dit tel type d'école a presque le monopole sur un certain nombre d'emplois, des carrières importantes, etc. Constituer un réseau, ça dépend de la volonté des gens qui sont dans les lieux de formation ou de la politique qui est menée par la direction, le directoire.
Moi, je suis pas je suis pas très lobby et tout ce qui s'ensuit. Parce que c'est vrai que nous avons toujours voulu, enfin en tout cas moi je fais partie de ceux qui ont toujours foi dans la République et que devant le droit que nous sommes tous en égalité, qu'il y a une égalité en droit entre nous tous, y compris donc si on reste dans l'absolu, y compris les étudiants, que ce soit de l'île 1 ou d'ailleurs. Et ils vont trouver le travail qu'ils méritent en fonction de leur mérite, justement. Cela n'empêche pas que, bon, c'est un principe général, d'une part, et que ça ne marche pas comme ça dans la vie de tous les jours. Et d'autre part, on sait très bien qu'une université a aussi besoin d'être portée, défendue, d'être... ne peut pas rester simplement à faire de cours, à faire de la recherche et de ne pas s'intéresser au monde dans lequel il se trouve. Donc les étudiants, c'est une force vive centrale, de mon point de vue, pour l'avenir de leur université. L'université est évidemment fondamental pour aider à construire l'avenir de l'étudiant. Et moi, je reprends ce même principe dans l'autre sens, parce que pour moi, elle est aussi valable. Et l'étudiant est aussi central par rapport à l'avenir de l'université. Mm-hmm. Et à partir de là, je considère que l'avenir de notre université dépend aussi de l'avenir des étudiants. Et cet avenir, que l'on résume en un mot en disant qui vont devenir les anciens de l'île 1, hein, puisqu'ils vont être dans le monde de travail ici et là, il est très important quand ils sont intéressés, bien entendu, et qu'ils continuent à s'intéresser, qu'il y ait un lien, que le lien soit maintenu entre eux et leur université. Que ce soit, c'est pas forcément pour faire de lobbying, d'ailleurs, ça peut être aussi pour tout ce qui est en rapport avec l'activité culturelle, avec le patrimoine scientifique dont on vient de parler, avec le soutien à des projets. De projets parallèles, entre guillemets, que les uns et les autres, nous avons envie de monter à l'université, mais dont les budgets de l'université ne le permettent pas et que les anciens peuvent nous aider à porter ce projet avec nous. Donc, je veux dire, il y a une... Et puis, c'est bon de retrouver ces anciens étudiants, de passer un peu de temps avec eux, et puis d'apprendre de eux ce qu'ils sont devenus et par là même... savoir qu'est-ce que c'est très utile pour un enseignant de recontacter, d'avoir de contact avec ses anciens étudiants et de discuter avec eux. Et je pense que c'est, que ce soit sur le plan convivial ou que ce soit sur le plan vraiment universitaire, c'est très intéressant, c'est très important.
Alors là, on est en début d'année, donc c'est la rentrée universitaire. Qu'est-ce qui est fait pour que ces nouveaux étudiants qui arrivent là sur le campus puissent se sentir, je ne vais pas dire en famille, mais au moins familiers de quelque chose qu'ils peuvent revendiquer comme un espace commun?
Moi, ce que je pense, c'est que nous avons fait beaucoup de progrès, que notre campus devient parmi les campus les plus agréables et les plus convivial. En France, et nous avons une offre, je ne parle pas évidemment de l'offre de formation qui est la raison principale pour laquelle les étudiants viennent ici, certes, mais au moins je laisserai ça, je crois que c'est dans deux ou trois émissions, d'ici deux ou trois semaines, mon collègue vice-président formation est invité à venir ici avec toi pour parler de l'offre de formation de l'île 1. En revanche, pour tout ce qui est vie sur le campus, nous avons une vie associative très importante, et que cette vie associative peut être extrêmement soutenue et par l'université. Donc il y a des lieux, il y a des locaux, il y a la maison des étudiants qui est ouverte maintenant depuis un an. D'ailleurs, je crois que l'année dernière, il y a eu une émission spéciale sur la maison des étudiants. On pourra reprendre pour le nouveau souci et inviter la maison des étudiants de venir s'exprimer ici, cette émission. Et puis, il y a l'espace culture qui permet une programmation à la fois artistique, de très bonne qualité et très, très diversifiée, mais aussi une programmation de conférences, de réflexions, d'échanges qui est de très bonne qualité, très, 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 très singulier en France. Et voilà, et qui donc tous les goûts, j'allais dire, culturels peuvent trouver vraiment quelque chose à aller voir ou à une participation dans un projet, parce que les étudiants aussi peuvent monter eux-mêmes leur propre projet culturel, sportif ou de projet, un projet social quelconque, et être soutenus, accompagnés, y compris financièrement, mais aussi mettre à leur disposition de locaux, des amphis, etc. Donc là, dans les médias, et puis on reviendra au fur et à mesure que le temps avance, dans les médias, que ceux qui nous écoutent sachent qu'il y a une revue culturelle très, très grande qualité qui est à leur disposition, qui est gratuite, qui s'appelle Les Nouvelles d'Archimède, qu'il y a toute une programmation qui est déjà établie, qu'ils peuvent aller chercher. Je peux déjà dire que, par exemple, quelques événements de l'île 1, la saison culturelle, l'ouverture, c'est mardi prochain, mardi 7 octobre. Donc il y aura là une... il y aura de présentation de la saison, de pratique. Il y a les ateliers de pratique artistique
Rappelons que ces ateliers sont ouverts à tous les étudiants, pas seulement l'île 1.
Ah oui, absolument. Ouais. Les ateliers de pratique artistique, c'est priorité l'île 1. Mmh. Étudiants de l'île 1, les ateliers. Parce que les ateliers sont quand même assez coûteux à l'institution. Mmh. Et le nombre de places est limité par définition. Bon. Je parle des ateliers où l'étudiant travaille avec un artiste professionnel. Mm-hmm. En revanche, toutes les autres activités, les spectacles, sont ouverts à tout le monde, bien entendu. Mais d'autres étudiants peuvent venir aux ateliers de pratique artistique s'il y a de la place. Mais c'est je veux dire, comme le nombre de places est limité, mm-hmm. par définition, bon. Dans un atelier, et la priorité va aux étudiants de l'île 1, bien entendu. Donc il y a la saison culturelle qui aura lieu le 7 octobre, qui sera, où il y aura un concert. On a un orchestre maintenant symphonique de l'île 1 qui va intervenir, qui va ouvrir cette saison, avec un solo de danse, avec une présentation de la saison, comme je viens de le dire. Le solo de danse qui s'appelle La peau et les os, de Lydia Fromont. Donc, c'est l'ouverture de la saison. Les conférences cette année vont tourner autour de trois thèmes. Le thème de l'espace, dans toutes ses dimensions. Le thème de la guerre. Et le thème évidemment, récurrent à propos de la science. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça, on en reparlera sans doute dans d'autres occasions. Il y a une exposition le 13 octobre, donc dans 10 jours. Qui s'appelle Universitaire dans le cadre de l'année internationale de la planète Terre. Donc c'est une exposition en collaboration avec le musée d'histoire naturelle de Lille et la société géologique du Nord. Il y a toute une manifestation co-organisée dans le cadre européen avec nos amis belges sur la Palestine qui s'appelle Massarat Palestine. Donc, du théâtre, de la musique, c'est des manifestations culturelles autour de la culture palestinienne. Il y a une sortie de dernier ouvrage collectif de la collection de rendez-vous d'Archimède sur la laïcité, avec c'est le 19e titre de la collection. L'apparition aura lieu au mois de novembre et il y aura un forum furé à Lille, comme à chaque fois. Il y a le 9 octobre, à partir de 16h, à l'École nationale supérieure de chimie, la résonance magnétique nucléaire, une manifestation, une zoom science et technologie, en quelque sorte. Il y a de jeunes chercheurs dans la cité, qui, le 16 et 21 octobre, vont se trouver à la maison de folie de Moulins. Le Collège doctoral européen Lille-Nord-France et l'École doctorale sciences de l'homme et de la société invitent tous les jeunes chercheurs à venir participer à cet événement. Il y a la fête de la science bientôt, et je termine par le fait que de 20 au 22 novembre, il y a un colloque international pour ceux à qui ça intéresse sur la problématique du développement durable 20 ans après.
Voilà, merci Nabil pour ces informations, et c'est vrai que cette année universitaire 2008-2009, donc en 2009, nous fêterons, nous, les 40 ans de Radio Campus avec un gros événement notamment qui sera une université radiophonique sur le thème citoyen du monde, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci, très bonne soirée.
C'est moi.